Laudetur Jesus Christus.
Taïwan toujours encerclé par l'armée chinoise en manœuvre. Pékin veut intimider et punir le nouveau président de l'île. Sur place, la population préfère ignorer le déploiement de forces chinoises. Retour au calme en Nouvelle-Calédonie. Après la visite du président français dans l'archipel, il a promis que l'État ne passera pas en force sur la réforme constitutionnelle du corps électoral. Le 11 juillet devient la journée internationale de réflexion et de commémoration du génocide de 1995 à Srebrenica. Vote hier de l'Assemblée générale des Nations unies qui provoque la colère des Serbes et l'inquiétude dans les Balkans. L'Église aura 13 nouveaux saints, parmi eux Carlo Acutis, un jeune laïc italien décédé en 2006, surnommé le Gic de Jésus. Nous entendrons sa mère qui confie bien évidemment sa joie. Et puis retour dans notre dossier sur le premier concile en Chine qui permit il y a 100 ans de siniser l'Église. On en parle avec le sinologue Benoît Vermandet. C'est à suivre à la fin de ce journal.
Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
Bonjour. La Chine ne desserre pas donc son étau autour de Taïwan. Depuis hier, l'armée chinoise et principalement sa marine mènent des exercices qui encerclent l'île. Ils visent entre autres à punir le nouveau président taïwanais pour ses propos jugés séparatistes. Ce matin, le ministère de la Défense taïwanais recensait 19 avions militaires et 26 navires chinois dans le détroit de Taïwan. À Taipei, Mandy Eshmati.
Des avions de combat F-16. Armés de missiles réels, patrouillant dans le ciel du détroit de Taïwan. Ce matin, le ministère de la Défense taïwanais a partagé des images des exercices militaires chinois en cours. Dans un communiqué, l'armée chinoise a affirmé qu'il vise à tester la capacité à prendre le pouvoir, à lancer des attaques conjointes et à occuper des zones clés. La veille, leur porte-parole avait également déclaré que ces exercices étaient une forte punition contre les actes séparatistes des artisans de l'indépendance à Taïwan, une référence au discours d'investiture du nouveau président taïwanais Lai Ching-te, qui assurait lundi que les deux rives du détroit n'étaient pas subordonnées l'une à l'autre. Les patrouilles chinoises n'ont pas inquiété outre mesure les habitants de l'île habitués aux provocations de Pékin. Sur les chaînes télévisées, cette information est vite balayée pour parler de la réforme du Parlement actuellement examinée par les députés taïwanais à l'origine de manifestations importantes dans la capitale. Taipei, Mandy Eshmati pour Radio Vatican.
Et cette démonstration de force chinoise et les échanges de mots peu amènes inquiètent les Nations Unies. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé hier les différentes parties à s'abstenir de toute action pouvant aggraver les tensions. Les Nations Unies, par la voix de sa Cour internationale de justice, doivent aujourd'hui se prononcer sur la requête de l'Afrique du Sud d'ordonner immédiatement un cessez-le-feu dans la bande de Gaza. Pour l'heure, l'armée israélienne poursuit ses bombardements du territoire palestinien. Hier, 26 personnes, dont 15 enfants, ont perdu la vie à Gazaville dans deux frappes aériennes ayant visé une maison, une mosquée et une école. Le gouvernement israélien a cependant donné son accord à la reprise des négociations pour libérer les otages israéliens. Quant au premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt de la CPI, il devrait bientôt se rendre devant le Congrès américain à Washington, selon le président de la Chambre des représentants. Le conflit israélo-palestinien en Cisjordanie, cette fois l'opération de l'armée israélienne dans la région de Jenin s'est achevée hier. Elle visait officiellement des cellules terroristes du Hamas et du djihad islamique. En tout, 12 Palestiniens ont été tués, dont 4 enfants et 25 personnes blessées. Les Nations Unies toujours avec hier le vote de l'Assemblée générale en faveur de l'instauration le 11 juillet d'une journée internationale de réflexion et de commémoration du génocide de 1995 à Srebrenica. Une décision maintes fois repoussée qui déçoit les Serbes et suscite de nouvelles inquiétudes dans les Balkans. Les précisions à Belgrade de Simon Rico.
84 voix pour, 19 contre et 68 abstentions. L'Assemblée générale de l'ONU s'est divisée, mais a finalement voté en faveur de cette résolution qui reconnaît de facto le caractère génocidaire du massacre commis au début de l'été 1995 par les troupes serbes de Bosnie, dirigées par Ratko Mladic. Belgrade avait pourtant multiplié les efforts diplomatiques pour tenter de faire barrage à ce texte, le considérant comme offensant pour les Serbes, alors même que ceux-ci ne sont pas désignés comme coupables collectivement. En avril, Le président de l'entité serbe de Bosnie avait prévenu que le pays risquait d'imploser à cause de cette résolution. Hier, la Republika Srpska n'a même pas attendu le résultat du vote pour annoncer sa volonté de séparation pacifique avec l'autre entité croato-bosniaque, arguant du fait qu'il était impossible de vivre avec des gens considérant les Serbes comme génocidaires. Un nouveau pas vers l'implosion de la Bosnie-Herzégovine semble donc avoir été franchi, au risque de déstabiliser l'ensemble des Balkans. Du côté de la Serbie, le régime nationaliste du président Vučić a regretté que cette résolution ne rouvre de vieilles blessures et dénoncé les pressions de l'Occident pour la faire adopter. Belgrade, Simon Rico pour Radio Vatican.
Après avoir pointé du doigt l'Ukraine et les Occidentaux dès le début, les services de renseignement russes reconnaissent pour la première fois la responsabilité de l'organisation de l'État islamique dans l'attentat de Moscou. Le 22 mars, quatre hommes pénétraient dans une salle de concert, ouvrant le feu sur la foule et déclenchant un incendie. 145 personnes avaient trouvé la mort dans cet assaut revendiqué par le groupe terroriste islamiste. L'État français ne passera pas en force sur la loi constitutionnelle sur le dégel du corps électoral en Nouvelle-Calédonie. Cette annonce d'Emmanuel Macron, à l'issue des 17 heures qu'il a passées à Nouméa, constitue le socle d'un retour au calme sur l'archipel. À Nouméa, Jean-François Baudin.
C'était un voyage à qui tout double et les jours qui viennent devraient montrer si Emmanuel Macron a réussi son pari. Il ne retire pas la loi constitutionnelle qui a servi de prétexte à la partie la plus dure des indépendantistes pour mettre la Calédonie à feu et à sang, mais il retarde le calendrier sans date précise pour donner du temps aux acteurs politiques qu'il a exhortés à trouver un accord global, accord qu'il souhaite voir intégrer la Constitution française après une ratification par un vote des Calédoniens. Rien de neuf vraiment, puisque l'État a toujours dit qu'un accord global, s'il était trouvé, se substituerait à la loi constitutionnelle. Mais il a réussi dans ce contexte d'émeute à renouer les fils du dialogue et les partenaires politiques calédoniens seront accompagnés par la mission de hauts fonctionnaires que le président de la République a installée avant de quitter la Calédonie. Le chef de l'État a demandé la levée des barrages et l'arrêt des exactions comme un préalable à sa volonté de laisser le temps au dialogue. L'État va aussi s'engager pour accompagner une économie calédonienne détruite. Les dégâts sont estimés à 1 milliard d'euros. Il faudra des mois, voire des années, avant que les Calédoniens retrouvent une vie normale, la vie d'avant cette poussée d'ultra-violence et d'insurrection dont on sait aujourd'hui qu'elle a été préparée et orchestrée. À Nouméa, Jean-François Baudin pour Radio Vatican.
L'accord global que le président français appelle de ses voeux devra lui couvrir impérativement les questions du corps électoral, celles de l'organisation des pouvoirs, de la répartition des sièges, de la citoyenneté, de l'avenir économique et bien sûr du nickel. Et enfin, la question de l'autodétermination. Après avoir prêté serment hier comme président du Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno a nommé Alamé Alina au poste de Premier ministre. Il succède ainsi à Success Mara qui a démissionné mercredi. Ancien ambassadeur du Tchad en Chine, Alamé Alina a été pendant 13 ans chef du protocole de la présidence et est très proche du clan Déby. Tapis rouge pour le Kenya à la Maison Blanche. Le président Ruto a été reçu hier par Joe Biden qui a reconnu Nairobi comme un allié particulier en Afrique. Les États-Unis misent sur ce pays pour contrecarrer les ambitions de la Chine et de la Russie sur le continent. Les deux hommes ont également parlé de la mission de police sous l'égide de l'ONU en Haïti et dont les forces kenyanes seront le fer de lance. L'Église comptera bientôt un nouveau saint, Carlo Acutis. Après l'avoir béatifié en octobre 2020 à Assise, le pape a approuvé hier le décret de sa canonisation. Un miracle a été reconnu grâce à l'intercession du jeune bienheureux décédé en 2006 à l'âge de 15 ans. Il aurait eu 33 ans cette année. Depuis, le futur saint, qui fut passionné par les nouvelles technologies, suscite une incroyable dévotion populaire de par le monde. Antonia Acutis, la mère de ce gic de Jésus, comme on le surnomme, nous confie sa joie.
Carlo avait cette extraordinaire pureté de cœur qui parle encore aujourd'hui. Il était un peu comme le facteur, le postier de Jésus. Les saints sont de fait, comme saint François d'Assise le disait, pour le Christ. Ce sont des figures qui portent en elles la présence de la Trinité qui se perçoit réellement. Carlo avait tellement cette présence de Dieu en lui, comme vous le savez, depuis sa première communion à l'âge de 7 ans, il n'a cessé de se rendre à la messe tous les jours, de pratiquer l'adoration eucharistique, réciter le chapelet, lire la parole de Dieu quotidiennement. On sentait bien qu'il avait ce quelque chose en lui. Les gens ont aujourd'hui tellement besoin de foi et quand apparaissent des signes surnaturels, ils se rapprochent spontanément de lui car ils sont en recherche. Malheureusement, il y a tant de faux maîtres, mais Carlo aimait Dieu par-dessus tout. L'Eucharistie était pour lui l'autoroute vers le ciel, c'était cela son message, la sainteté ordinaire.
Des propos recueillis par notre consoeur de la rédaction italienne Benedetta Capelli. Journée de prière pour l'Église catholique en Chine. Comme chaque 24 mai depuis son instauration en 2007 par Benoît XVI, l'Église universelle prie avec les frères et sœurs de l'Église de Chine. Dans l'Empire du Milieu, les pèlerins affluent vers le seul site de pèlerinage marial du pays, Notre-Dame de Sichuan, sanctuaire près de Shanghai. Le pape François aussi, cette année, montera en pensée sur la colline de Sichuan. C'est ce qu'il a confié mardi dans un message aux catholiques chinois à l'occasion d'un colloque historique au Vatican. En présence des cardinaux Parolin et Taglé, de l'évêque de Shanghai, ce colloque marquait les 100 ans du premier et unique concile de l'Église catholique en Chine. À Shanghai, en 1924, celui-ci a pavé la voie à une sinisation de l'Église. Nous en décryptons ce matin la portée cruciale pour Rome et Pékin avec le jésuite et sinologue Benoît Vermandet.
L'une des décisions qui avait été prise, c'est d'accélérer la sinisation du clergé et notamment d'amener à nommer des évêques chinois. Et 2 ans plus tard, le pape nommait déjà des évêques chinois. Donc on peut dire que Mgr Costantini, le délégué du pape en Chine qui avait pris l'initiative de ce concile, a tout fait pour que les décisions qui ont été prises à Shanghai en 1924 soient appliquées le plus rapidement possible. Ça ne va pas sans crispation parce que beaucoup de sociétés missionnaires étaient encore un peu en appréhension devant ce tournant. Elle n'était pas prête à abandonner les responsabilités historiques qui avaient été les leurs. Mais c'est le Vatican, en alliance avec une minorité de ses missionnaires et avec le clergé chinois, qui va faire mettre l'accélérateur.
Comment la voie de l'inculturation et de la sinisation a-t-elle ensuite évolué au fil de ce siècle qui nous sépare du premier concile ?
Il faut bien se rendre compte que l'effet du concile de Shanghai a été fort, mais relativement court, puisque 25 ans après, il y a d'autres problèmes qui se posaient. Et que les problèmes qui se posaient après 1949 ne sont pas ceux de 1924. Ils peuvent être confrontés aussi parce que déjà en 1949, c'est une église chinoise qui va se confronter aux difficiles problèmes posés par le changement de régime. Et puis c'est après 1980 que peu à peu la question de l'indigénisation de l'église de Chine va de nouveau se poser. Alors on a en fait un mouvement non pas contradictoire mais double. D'un côté, il faut que l'église de Chine intègre, si l'on peut dire, les changements d'église universelle et notamment le Concile Vatican II. Donc il faut qu'elle opère son universalisation. Mais d'un autre côté, il faut aussi qu'elle devienne plus appelante, si on peut dire, pour l'ensemble des Chinois, c'est-à-dire qu'elle monte son enracinement dans la tradition chinoise. On peut dire que cette tension, c'est toujours celle qui est à l'œuvre aujourd'hui, mais que pour le moment, le volet indigénisation, le volet expression dans la société chinoise même de l'enracinement chinois de l'Église catholique est le problème dont on discute le plus.
Ce processus d'inculturation est-il aussi le début d'une meilleure connaissance mutuelle et réciproque ?
Certainement, il n'y a pas de contradiction de fond entre l'universel et le particulier. C'est quand on est vraiment soi-même que les gens peuvent vous apprécier tel que vous êtes. Cela dit, si ce processus est réel, il a toujours été lent et difficile. Donc jusqu'à aujourd'hui, on ne peut pas dire que l'Église universelle connaisse bien l'Église de Chine. Elle reste difficile à connaître et on peut dire aussi que l'Église de Chine ne vit pas encore tout à fait au pouls de l'Église universelle. Elle fait tout ce qu'elle peut pour elle, mais il y a tout de même encore des barrières, un long passé qui rendent parfois les communications difficiles.
Le Vatican répète aujourd'hui aux catholiques chinois leur devoir à être de bons citoyens autant que de bons croyants. Comment cela peut-il être perçu en Chine ?
Je pense que pour l'immense majorité des catholiques chinois, la question ne se pose même pas. Ils sont de bons citoyens, tout simplement. Donc, ils savent très bien qu'ils ont une double fidélité observée et cette double fidélité est dans l'ensemble extrêmement bien observée, selon mes observations. Je crois que les catholiques chinois ont appris à faire la différence entre le politique et le religieux. Ils doivent tenir cette différence ferme dans leur pays. Donc ils sont des bons citoyens et comme l'a dit aussi l'évêque de Shanghai à la conférence, cela ne touche pas à la foi, à l'essence, au contenu de la foi. Cela est bien clair. Donc ils sont des catholiques qui embrassent la foi de l'Église universelle et qui en même temps, comme les chrétiens dans le monde entier, ont à cœur le développement et le bien-être de leur pays.
Interrogé par Delphine Allaire, le jésuite et sinologue Benoît Vermandet était ce matin l'invité de Radio Vatican. Voilà, c'est la fin de cette édition. Prochain retour de l'actualité en langue française, ce sera à 13h heure de Rome. D'ici là, vous pouvez nous retrouver sur notre site internet ainsi que sur notre page Facebook. Excellente journée à toutes et à tous.